Approchons-nous donc avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, n'est-ce pas? Et les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Mais en tout état de cause, nous avons besoin de persévérance. Et c'est un besoin. En tant que besoin, donc une nécessité nécessaire, n'est-ce pas? C'est quelque chose qui est nécessaire. On en a besoin. Et Jésus-Christ déjà nous dit que le Père céleste, avant même que nous n'ouvrions notre bouche, sait de quoi nous avons besoin. Nous allons lire dans Matthieu 6. Donc, ce qui est nécessaire pour votre salut, Dieu connaît. Pour chacun d'entre nous, pour mon salut, Dieu connaît. Pour le vôtre, Dieu connaît. Il sait ça. Il connaît. Et il connaît même mieux que nous. Matthieu 6. Peut-être que vous combattez bien, mais vous avez tendance à relâcher. Alors, l'Esprit vous dit, vous avez besoin de persévérance. Et cette persévérance, nous avons vu la mercredi, la persévérance dont la Bible parle, c'est pas tellement une qualité dans la vie, mais c'est un don de Dieu. Que Dieu nous donne cette persévérance. Il nous dit ceci au verset 6, Jésus, mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte. Et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Quand Dieu connaît vos besoins, il n'y a rien de plus réconfortant que ça. Lorsque vous regardez à gauche, lorsque vous regardez à droite, devant, derrière, et que vous ne voyez pas le moyen de vous en sortir d'une manière ou d'une autre dans la marche chrétienne, sachez ceci, Dieu sait comment vous réconforter, Dieu sait comment vous aider pour que vous vous en sortiez. Pourquoi avons-nous besoin de persévérance? 2 Timothée 3. C'est que les jours que nous, dans lesquels nous vivons sont des jours difficiles. Verset 1er. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Ce sont les temps dans lesquels nous vivons. Et dans ces temps dans lesquels nous vivons, nous avons besoin de persévérance. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents. Ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. À cause d'eux, vous risquez de vous relâcher. Vous risquez d'abandonner la marche, d'abandonner le chemin. Mais si vous voulez continuer, faites ce que la Bible vous donne comme conseil. Hein, parce que dans 1 Timothée 4, il dit en fait, c'est l'Esprit qui parle. Il dit, l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, les hommes seront difficiles. Pourquoi? Parce que quelques-uns abandonneront la foi. Alors, si celui qui est à votre côté abandonne la foi, vous n'abandonnez pas. Amen. Continuez. C'est David qui disait, 10 000 peuvent tomber à ma gauche, 1 000 à ma droite, je ne broncherai pas.
Amen.
Amen. Or, et il a dit ça en des temps difficiles. Il passait des moments extrêmement difficiles. Et dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. Ce n'est pas parce que quelques-uns abandonnent que moi je dois abandonner. Paul me dit, l'Esprit me dit par Paul, tu as besoin de persévérance. Et je reconnais devant Dieu que j'en ai besoin. Parce que par moments, j'ai envie d'arrêter. Par moments, j'ai envie de tout abandonner. Tellement c'est difficile de remettre un pied devant l'autre, ça devient compliqué. Oh Seigneur, c'est trop difficile. Mais non, Dieu dit, tu en as besoin. Si j'en ai besoin, qu'est-ce que je fais? C'est que j'ai besoin. Jésus dit, ce dont tu as besoin, entre dans le lieu secret. Prie le Père Céleste, il sait ce dont tu as besoin. Et il comblera ce besoin-là pour que tu puisses continuer ta marche. Alors, lorsque vous en sortez, vous êtes à nouveau fin prêt à en sortir, n'est-ce pas, à marcher. Ce matin, y a un frère qui m'a appelé du Congo. Et on parlait, il était là en train de chanter. Je lui dis, tiens, tu es joyeux aujourd'hui. Il dit, mais oui, je suis joyeux. Moi, tu es bien réveillé. Il me dit, et toi, tu n'es pas joyeux. Moi, j'ai dit, tu sais, il y a des jours où le chien blanc et le chien noir, quand ils se battent, il y a des jours où le chien noir prend le dessus. Il dit, allez. Il dit, tout est beau aujourd'hui. Alors moi, j'ai dit, gloire à Dieu. Parce que ça s'est déjà arrivé que je l'appelle, lui, soit un peu ramplan-plan. Mais aujourd'hui, il était vraiment bien retapé. Que Dieu soit loué. On a fait plus d'une heure au téléphone. Amen. Ah, WhatsApp, c'est une bonne chose là, aujourd'hui. On peut parler entre frères pendant des heures. La venue du Seigneur que nous attendons, n'est-ce pas? C'est ce qui a été lu dans Hébreux 10. Dans Hébreux 10, il nous est dit, celui qui doit venir, n'est-ce pas? Encore un peu de temps, verset 37, un peu de temps, celui qui doit venir viendra. Et il ne tardera pas. Et nous sommes dans l'attente de sa venue. Nous sommes dans l'attente de la venue du Seigneur. Et bien, c'est vrai, mais pendant que nous sommes dans l'attente, les temps que nous passons sont des temps difficiles. Au verset 32, toujours Hébreux 10, nous lisons, « Souvenez-vous de ces premiers jours où, après avoir été éclairés, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances. » Souvenez-vous-en. Surtout avec le zèle du début, les grands combats, c'était rien devant nous dans les ailes du début. C'est bizarre. C'est plutôt avec le zèle après plusieurs années d'expérience qu'on a de plus en plus difficile. Mais au début, on soulevait quasiment les montagnes. On déplaçait les montagnes. Avec cette foi-là qu'on avait, on avançait, rien ne pouvait nous arriver. Et nous voyons tous que l'enlèvement, c'était demain. Un jour, une sœur m'avait envoyé toute la panoplie, n'est-ce pas, des cantiques du frère Antonio. Et j'ai mis ça, j'écoutais, je lui ai écrit, je lui ai dit, tiens, tu vois, quand on chantait tout ça, quand le frère chantait tout ça, on voyait que l'enlèvement, c'était demain. Eh bien, ça fait déjà plusieurs années qui sont passées. Mais on continue. Nous sommes heureux d'être toujours là, d'être debout. Vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances. D'une part, exposé comme un spectacle aux opprobres et aux afflictions. Ça va? Et de l'autre, vous associant à ceux dont la position était la même. En effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez des biens meilleurs et qui dure toujours. Amen. N'abandonnez donc pas votre assurance. Continuez, nous venons de chanter, Jésus est notre assurance. Il est une assurance, excusez-moi cette répétition de mots, mais c'est une assurance sûre. Jésus-Christ, c'est une assurance certaine, assurance de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Amen. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. Et nous savons que veiller, c'est prier les uns pour les autres. Veiller les uns sur les autres, prier les uns pour les autres. Aussi, nous savons qu'il y a une veillée de prière cette nuit. Eh bien, nous sommes heureux de savoir qu'il y a des enfants de Dieu qui prient. Et si vous priez chez vous, vous savez que vous n'êtes pas seul à prier, qu'en ce moment-là, il y a aussi des frères et des sœurs qui prient. Pas seulement ici à la rue de Firland, mais je crois que c'est dans le cœur de tous les enfants de Dieu. Il est arrivé un moment où, ces derniers temps, à 4h du matin, 3h30, 4h du matin, je me réveille et puis je reste là dans mon lit 7h, pas, c'est à 7h que le sommeil revient. Et je tourne dans mon lit de 4h à 7h à ne rien faire. Un jour, je dis, bon, puisque je n'ai pas sommeil à ces heures-là, eh bien, je vais mettre ça en prière. Amen. Alors, une nuit, Satan me coupe le sommeil à 4h du matin. Très bien. Je me mets en prière. Je me suis mis en prière. J'étais très content. Je me suis couché. Et puis après, je me suis réveillé. Je me dis, ben, encore cette nuit. C'est la nuit suivante, 4h du matin, je me suis réveillé. Je me suis mis à prier. Et j'étais content le lendemain. Je dis, oh, pourvu que ça continue. Le surlendemain, j'ouvre les yeux, il était déjà 7h. Oh, il m'a endormi. Vous voyez comment ça marche? Maintenant, il ne veut plus que je me réveille à 4h du matin. C'est nécessaire. C'est un besoin. En fait, l'esprit avait besoin de prière à ce moment-là. Des temps difficiles précèdent la venue du Seigneur. Celui qui doit venir viendra, mais avant qu'il ne vienne, ce sont des temps difficiles. Dans l'attente, nous recevons des coups. Dans l'attente, il y a des soucis, il y a des problèmes. Jésus nous a prévenus. Dans Luc 21, verset 34, il dit, « Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'appesantissent par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie. » Oui, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. S'il y a un temps où nous avons des soucis, c'est bien aujourd'hui. S'il y a un temps où nous manquons de sommeil à cause des soucis, c'est bien aujourd'hui. Pourquoi? Parce que Jésus est à la porte. Les 7 ans sont tellement difficiles que ce sont des temps où il est question de douleurs de l'enfantement, des douleurs semblables aux douleurs qu'éprouve une femme prête à enfanter. Dans Matthieu 24, Jésus dit ceci. D'abord, au verset premier, comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Ok. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui poser cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Quand est-ce qu'il ne restera pas pierre sur pierre là-bas au temple? Et quel sera le signe de ton avènement? Donc, ils sont intéressés par son avènement et de la fin du monde. Et Jésus va dire, on va donner la réponse, et il va dire plein de choses qui vont arriver, des choses à nous donner des soucis. Des séducteurs, Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom. Si ce n'est pas le cas aujourd'hui, alors je ne comprends plus rien. Dans Internet, vous avez l'impression qu'il y a plus de chrétiens que de païens aujourd'hui. Chacun vient avec son témoignage, chacun vient avec ses prédications, chacun vient avec... aujourd'hui, il y a des appels sur Internet, n'est-ce pas, des prédications qui sont postées sur Internet. Il y en a d'autres qui s'envoient sur WhatsApp des prédications. Donc, il y a plein de ces choses. Mais dans beaucoup, il y a beaucoup de séduction dans ces choses-là. Car plusieurs viendront sous mon nom disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre. S'il y a un jour on entend parler de guerre, c'est bien aujourd'hui. Et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Jésus dit tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Ce sont des temps difficiles, des temps propices à pousser les gens à un relâchement. D'autres à abandonner leur assemblée. D'autres à perdre l'assurance qu'ils avaient. Oui, ce sont des temps difficiles, mais l'Esprit vous exhorte, vous avez besoin de persévérance. Autrement dit, quand vous vous mettez à genoux cette nuit, quand vous vous mettez à genoux ce soir, ne passez pas votre temps à demander à Dieu quelque chose de terrestre. Le terrestre, Dieu, il le donnera. Il le donnera. Passez votre temps à rechercher le royaume des cieux. Dites à Dieu, moi, toi, tu connais mieux mes besoins que moi. Oh, plus tu, tout simplement, combler mon besoin. Les difficultés qui nous arrivent, c'est pour que nous puissions justement acquérir de l'expérience. Nous ne pouvons pas acquérir de l'expérience en ayant tout facile devant nous. Il faut que cela soit compliqué. Il faut que ça soit au milieu des difficultés. Et quand c'est au milieu des difficultés, Dieu console. Ça, je vous le dis par expérience. Persévérer, c'est pouvoir maintenir sa foi au travers des épreuves de la vie. Vous croyez toujours. Nous avons besoin de persévérance pour rester inébranlable en face de l'opposition. Nous avons besoin de persévérance pour rester inébranlable devant un temps de guerre. Pourquoi ? Parce que Dieu nous a donné les armes qu'il faut, tant les armes offensives que des armes défensives pour pouvoir aller à la guerre. Ici, il habille les Éphésiens. Vous savez, les Éphésiens sont ceux-là. Quand vous regardez bien, ils sont ceux-là qui ont été scellés du Saint-Esprit. N'est-ce pas? Après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile du salut, en lui, ils ont cru, ils ont été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Verset 13, ces Éphésiens-là. Ayant été scellés du Saint-Esprit, quand vous êtes scellés du Saint-Esprit, cela ne veut pas dire que les combats sont terminés. Dites amen à ça. Parce que ce sont les mêmes Éphésiens qui, étant scellés du Saint-Esprit, ce sont les mêmes Éphésiens que l'Esprit conclut le chapitre en disant, verset 11 du chapitre 6, « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. » C'est aux mêmes Éphésiens-là. Scellés du Saint-Esprit, ils ont besoin d'être armés. Un chrétien qui se respecte, un vrai chrétien, oui, ne se promène pas désarmé. Oui. Les armes que Dieu lui a données, il les a.
Amen.
Parce qu'il est en pleine guerre.
Amen.
Il est en plein combat, même ici à l'Assemblée.
Amen.
Vous entrez ici, cela ne veut pas dire qu'en étant ici, vous êtes en plein combat. Ça peut se passer là, à l'intérieur. Alors, une fois sorti, ça, c'est même encore pire. Une fois dehors, vous êtes toujours en plein combat. Les armes que Dieu nous demande d'avoir, nous devons les avoir en permanence sur nous. Revêtez-vous, il dit, revêtez-vous de ça, que cela soit vos habits. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, n'en laissez aucune, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Le diable, une fois, il est passé là-bas, alors que le Seigneur était réuni avec les enfants, avec ses enfants, il est passé, il dit, d'où viens-tu? Il dit, je viens de parcourir le monde. Il est entré dans des assemblées, il a fait des dégâts, il a fait pas mal de choses, et il est parti monter. Et le Seigneur lui a dit, mais pendant que tu as circulé, tu as vu mon fils Job. L'apôtre nous dit, faites attention, l'Esprit nous dit au travers de l'apôtre, parce que notre ennemi, hein, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Et il insiste, prenez toutes les armes de Dieu. Hein, la vérité pour ceinture, la cuirasse de la justice, le zèle que donne l'évangile de paix, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. Vous savez, quelqu'un qui a perdu le zèle, c'est justement lui qui abandonne l'assemblée. Alors, au verset 18, il dit ceci, faites-en tout temps par l'esprit que vous avez reçu. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Ouais. Et priez pour tous les saints. Avec une entière persévérance. Ouais. Même baptisé du Saint-Esprit, scellé du Saint-Esprit, eh ben, vous avez besoin de persévérance pour pouvoir faire toutes sortes de prières et de supplications. Et ne faites pas des prières comme les païens. Jésus a dit, faites des prières par l'Esprit.
Amen.
Parce que l'Esprit, n'est-ce pas, il est dit dans Romains, l'Esprit sait ce qui est convenable de demander. Romains chapitre 8. Verset 26, de même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Car nous ne savons pas, nous ici, nous ne savons pas ce qui convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu que l'Esprit intercède en faveur des saints. Amen. Nous avons besoin de persévérance pour rester inébranlables dans les afflictions. Romains 12. Verset 9, ce qui nous intéresse, c'est 11 et 12. Mais pour voir un peu le contexte, que l'amour, verset 9, que l'amour soit sans hypocrisie.
Amen.
Ayez le mal en horreur.
Amen.
Attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres.
Amen.
Par honneur, usez de prévenance réciproque.
Amen.
Ayez du zèle. Le zèle, c'est important. Ayez du zèle et non de la paresse. Quand quelqu'un commence à se vanter du zèle du début et il oublie le zèle du présent, il y a un problème. Il faut prier pour la personne. Il ne faut pas perdre le zèle du début. Il dit, à l'église d'Éphèse, il dit, souviens-toi de ton premier amour. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. L'affliction vient prier. Elle vient encore comme un fleuve. Continuez à prier. Persévérez dans la prière. Ne venez pas, ne vous découragez pas. Dieu ne m'entend pas. Dieu entend. Qu'est-ce que vous direz devant le témoignage de Zacharie? Zacharie a prié toute sa vie. Il a peut-être aussi dit, Dieu n'entend pas ma prière. Eh bien non, l'ange vient lui dire, tes nombreuses prières ont été entendues. Pour Zacharie, ça faisait peut-être il y a 30 ans, il y a 40 ans. Mais pour Dieu, c'est il y a une minute. Amen. Il y a deux minutes. Amen. Gloire à Dieu. Ah. Pour beaucoup, ça fait 10 ans que je demande. Eh bien, pour Dieu, c'est à peine 30 secondes. Maintenant, vous avez besoin de persévérance. Vous devez savoir qu'il y a un prix à la persévérance. Il y a une récompense pour ceux qui persévèrent. Ne vous relâchez pas. N'écoutez pas ceux qui découragent les gens. Hein? Il y en a qui découragent, alors on peut les voir ceux, parmi ceux qui découragent les autres. Hein? Marc chapitre 10. Il y a quelqu'un qui a un besoin ici. Le besoin, pour lui, son besoin est de voir. Avez-vous déjà imaginé si vous étiez aveugle, né, si vous n'aviez jamais vu comme ça les choses, que vous soyez né aveugle. Avez-vous jamais imaginé qu'on vous parle d'un objet rouge? C'est horrible. Vous ne savez pas. Vous allez demander à la personne, c'est quoi rouge? Vous allez expliquer comment. C'est une couleur. C'est quoi une couleur? Vert, il y a du vert, il y a du bleu, il y a ceci. Mais lui ne sait pas. Je ne sais pas comment ils imaginent ça. Oh, cet aveugle né, que le Seigneur soit béni. Pour lui avoir donné la vue. C'est quelque chose d'horrible. Quelqu'un qui a été aveugle par accident, bon, il sait, il a vu le rouge. Vous pouvez encore lui décrire ça. Mais quelqu'un qui n'a jamais vu de sa vie. Verset 46. Celui-là, selon le drame que frère Branham raconte, c'est qu'il avait eu un problème et qu'il est devenu aveugle. Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier. Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Pourquoi s'est-il mis à crier quand il a entendu que c'était Jésus? C'est parce qu'il y avait une promesse. Quand le fils de David viendrait en tant que Messie, le Christ. Hein? Attendez, nous allons garder cette page dans Marc 4. Regardons dans Matthieu 22. Verset 41. Comme les pharisiens étaient assemblés, Jésus les interrogea en disant, « Que pensez-vous du Christ, c'est-à-dire du Messie? Qu'est-ce que vous en pensez? De qui est-il le Fils ?» Ils lui répondirent, « De David, fils de David. » Alors, quand le fils de David viendrait, n'est-ce pas? Quand le Christ, le Messie, devait venir, hein, n'est-ce pas? Jésus dit à Jean-Baptiste, il fait dire à Jean-Baptiste, « Allez dire à Jean-Baptiste, hein, que ce qui est écrit concernant le Christ, hein, vous avez vu ça, allez lui dire, allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Un, les aveugles voient. Amen. Deux, les boiteux marchent. Dites-les-leur. Les lépreux sont purifiés. Dites-le-lui, pardon. Les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Alors maintenant, Bartimée apprend que c'est lui qui arrive. C'est justement ce fils de David-là qui arrive. Mais il demande. Il y a des choses qui vont essayer. Il y a des personnes bien intentionnées ou que sais-je moi, qui vont vouloir les décourager. Vous avez besoin de persévérance.
Amen.
Bartimée en avait besoin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Plusieurs le reprenaient, ces plusieurs-là, pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort. « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, « Que veux-tu que je te fasse ?» Je ne sais pas si on l'a conduit. Quand il est parti vers Jésus, il était toujours aveugle. Je ne sais pas comment il a fait pour arriver jusque devant Jésus. Dieu lui-même vous conduit.
Amen.
Faites confiance à Dieu. Les hommes essaieront toujours de vous décourager. Et ce que Dieu vous promet, ça dépasse l'entendement des hommes. Ça les dépasse, c'est du surnaturel. Restez calme. Sachez que Dieu est à l'œuvre. Que veux-tu que je te fasse? Rabouni lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. N'abandonnez pas la foi. N'abandonnez pas. Quand bien même ça semble long, n'abandonnez pas. Hein? Comme cet homme dont nous avons parlé dimanche, hein? 38 ans, nous avons parlé dimanche, mercredi, n'est-ce pas? 38 ans à la piscine de Bethesda, il n'avait rien pour pouvoir sauter dans l'eau. Il n'avait personne pour le faire sauter, pour le jeter dans l'eau. Il n'avait rien de tout ça. Mais quelque chose lui demandait toujours de persévérer, à rester toujours là. Pendant 38 ans, cette persévérance-là, nous l'avons dit, hein, c'est un don divin. Il n'y a que Dieu qui peut vous donner ce genre de don. Après 2 ans, d'autres seraient déjà rentrés chez eux. Encore 2 ans, on allait lui dire, « Ah, tu avais quand même beaucoup de foi, tu as attendu 2 ans. » Oui. Il y a un prix à la persévérance. Donc, n'écoutez pas les décourageurs. Dans Matthieu 24, Jésus dit ceci, au verset 11, « Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin,
alléluia,
n'arrêtez pas en chemin. » C'est jusqu'à la fin.
Amen.
Celui-là, il sera sauvé. C'est tout ce que je désire. Ce salut que Dieu me donne, moi je le veux. Je crois que vous le voulez aussi. Nous le voulons tous. C'est pour cela que nous sommes ici. Parfois, hein, ce mauvais printemps que nous venons de connaître, qui vient de se terminer aujourd'hui. On n'a pas eu de printemps cette année-ci. Ça peut décourager beaucoup de gens. Mais non. Donc, ça veut dire que l'adversité peut décourager, qui dure longtemps, peut décourager beaucoup de gens. Avant même que nous ne soyons le 21 juin, n'est-ce pas, beaucoup d'agriculteurs commençaient déjà à pleurnicher. Parce que le temps est mauvais. Mais ayez confiance en Dieu. Celui qui persévérera jusqu'à la fin, il sera sauvé. Celui qui persévère, il se donne lui-même, il se remet lui-même à Christ jusqu'à la fin. Parce que c'est lui notre but. C'est sur lui que nous comptons. C'est lui notre soutien. Dans 2 Timothée 3, nous avons lu dans 2 Timothée 3 déjà, mais nous allons lire un rien plus loin. Dans 2 Timothée 3, Paul dit, verset 10, il parle à Timothée, il dit, pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes projets. J'en avais plein. Ma foi, ma douceur, mon amour, ma constance. Tu as suivi de près mes persécutions, mes souffrances. À quelles souffrances n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre? Vous pouvez lire cela dans Actes. Dans Actes 13. Vous pouvez lire tout ce qui s'est passé à Icône, à Lystre. Quelle persécution n'ai-je pas supportée? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Ça va? Alors, au chapitre 4, il dit ceci, verset 3, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Vous savez, beaucoup, en ce qui concerne le message, beaucoup ont abandonné le message après l'histoire de la fameuse histoire de l'année 1977. Pour beaucoup, ben, comme finalement il ne s'est rien passé en 1977, ben, ils ont cru au message à un moment donné et puis ils n'y ont plus cru. Ils n'ont plus persévéré. Vous là, 1977 est passé. Les gens disent il s'est trompé de 10 ans, donc c'est 1987. 1987 est passé, mais vous êtes toujours là. 97, vous êtes toujours là. 2007, vous êtes toujours là. S'il faut toujours prendre les 7. 2017, vous êtes toujours là. On va attendre 2027, mais ça peut se faire avant, hein. Moi je n'en sais rien. Tout comme ça peut se faire après, Dieu lui-même, il est souverain.
Amen.
Il s'est trompé, il ne sait pas. Il s'est trompé déjà en pronostiquant. Dieu a dit, personne ne connaît le jour. Personne, ni même le Fils. Alors toi, qui es-tu pour ça, pour connaître? Le Fils non plus ne connaît pas. Mais bon, ça montre que c'est un homme.
Amen.
Amen. Ça n'enlève en rien son ministère, mais ça montre que c'est un homme.
Amen.
Gloire à Dieu.
Amen.
D'ailleurs, je suis content qu'il se soit trompé. À toi aussi, mon frère, fisto, parce qu'à 77, je ne croyais pas encore. Eh bien, toi, tu n'étais pas encore né. Bon, vous voyez. Mais toi, on doit d'entendre où sommes-nous. Leur propre désir, verset 4, maintenant, détourneront l'oreille de la vérité, se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses. Supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Voilà, c'est ici que je voulais en venir. Hein? Besoin de persévérance, car pour moi, je sers déjà de libation et le moment de mon départ approche. Il dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Il persévère dans la foi, malgré toutes les persécutions qu'il a subies, malgré toutes les difficultés qu'il a rencontrées, malgré toute l'opposition qu'il a dû affronter, malgré toutes ces choses qu'il a dû vivre, il a gardé la foi. C'est une victoire. Le jour où vous arrivez à la fin de la route, vous êtes toujours plein de foi. Vous êtes parmi les vainqueurs, celui qui a vaincu. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Amen. Il y a une récompense à celui qui va jusqu'à la fin. La couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Amen. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Amen. Ne faites pas comme des masses. Viens au plus tôt vers moi, car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Il est parti pour Thessalonique. Crescens s'est allé en Galatie, Tite en Dalmatie. Luc seul est avec moi. Tout ça pour qu'il soit découragé. Eh bien non. Ne te décourage pas, frère Paul. Son attention est restée posée sur Jésus-Christ, qui suscite la foi et il amène à la perfection. Hébreux chapitre 12. Verset premier. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau qui a tendance à nous décourager. Rejetons ça. Et le péché aussi, qui a tendance à nous amener dans le monde. Et le péché qui nous enveloppe si facilement. Et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Ayant, il nous donne le tuyau, pour que nous puissions courir dans cette carrière où il y a des cailloux qui blessent un peu. Hein, il nous dit, quand nous courons, ayons les regards sur Jésus qui suscite la foi et l'amène à la perfection en échange de la joie qui lui était réservée. Il a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Vous avez besoin de persévérance. C'est ce que nous allons demander à Dieu maintenant. Que Dieu vous bénisse. Prions le Seigneur. Nous avons besoin de persévérance. Il y a veillée de prière. Père Benoît, c'est ma requête. J'en ai besoin. Persévérance. Prions. C'est vrai, Seigneur. Nous en avons besoin. Mon frère ici présent particulièrement, ainsi que ma sœur et moi-même. pouvoir passer outre les difficultés, passer outre les avis contraires, mais toujours ayant les regards sur Jésus-Christ, afin de ne pas m'écarter du chemin, ni à gauche, ni à droite. Lui seul est mon soutien. Lui seul est le soutien de chacun d'entre nous. Et lui seul sait comment réconforter quelqu'un lorsqu'il semble se retrouver seul sur le chemin, lorsqu'il semble se retrouver un peu perdu sur le chemin, sans appui. Oh, comme le cantique dit, non, il n'est jamais tout seul, je ne suis jamais tout seul, il est lui-même là, il me garde, oh, il me conduit, Jésus est avec moi. Et c'est selon, pour, comment sais-je qu'il est avec moi? Il a promis, il a dit qu'il sera avec nous tous les jours, dans les bons, les mauvais jours, oh, jusqu'à la fin du monde. Il ne nous abandonnera pas. Ce besoin de persévérance, c'est une nécessité qu'un chrétien soit persévérant. Parce que le chrétien, oh, il rencontre beaucoup de difficultés. Le chrétien rencontre beaucoup d'opposition. Le chrétien rencontre beaucoup d'avis contraires. Le chrétien rencontre beaucoup de logique humaine qui ne cadre pas avec ta logique à toi. Nous croyons en un Dieu surnaturel. Et c'est pourquoi nous persévérons. Lorsque nous voyons que cela est impossible, c'est certainement impossible aux hommes, mais cela t'est possible à toi. C'est cela notre réconfort ce soir. Nous aussi, nous déposons cette requête auprès de bien-aimés. Oh, c'est que nous puissions nous accorder, demandant tous ensemble. Je ne vais pas seulement déposer une requête et puis m'en aller m'endormir. Non, je veux vraiment que nous soyons accordés ensemble, oh Dieu, sur celle-là, sur cette requête et sur les autres requêtes qui viendront. Que, oh Dieu, que cela puisse monter auprès de toi comme un parfum de bonne odeur. Oh Père, cette promesse de baptême du Saint-Esprit, souviens-toi de cette assemblée, Père. Oh Père, que tu la répandes, que ce bruit, comme le bruit d'un vent impétueux, puisse aussi souffler à partir de cet endroit. Oh Père, et que tes enfants puissent en sortir, oh, qu'ils soient ivres ou pas, comme ivres ou pas, cela n'est pas grave, pour autant qu'ils soient sous l'impact du Saint-Esprit. Sois béni, sois loué. Te remercions ce soir pour toutes choses, pour ta bonté, pour la réunion que nous avons eue ce soir. Nous recevons cette parole, puisse-t-elle produire son effet au-dedans de nous. Que nous ayons cette persévérance, toute chose. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, lui qui nous a promis que si nous persévérons jusqu'à la fin, nous serons sauvés. Oh, nous le croyons de tout notre cœur. Merci pour ce grand salut que tu donnes. Au nom de notre bien-aimé Seigneur et Sauveur, nous t'avons ainsi prié. Amen. Dieu vous bénisse.